l'accomplissement de la promesse tant attendue. Et après qu'Abraham les ait accueillis, il les accompagne et nous lisons dans Genèse 18 à partir du verset 16. Genèse 18 à partir du verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. L'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre est si énorme et leur péché est si grave que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'ai entendu dire. Et si cela n'est pas, je le saurai aussi. » Les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome, mais Abraham se tint encore en la présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu succomber aussi, et ne pardonneras-tu pas à cette localité à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Loin de toi de faire une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant, en sorte qu'il en serait du juste comme du méchant, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit ? » L'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute cette localité à cause d'eux. » Abraham reprit et dit, « Voici donc que j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre, mais peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5 ? Pour 5, détruirais-tu toute la ville ? » Le Seigneur dit, « Je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. » Abraham continua de lui parler en ces termes, « Peut-être ne s'en trouvera-t-il que 40. » L'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces 40. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère, et je parlerai encore, mais peut-être ne s'en trouvera-t-il que 30. » L'Éternel dit, « Je ne ferai rien si j'en trouve la 30. » Abraham dit, « Voilà que j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il 20. » Le Seigneur dit, « Je ne la détruirai pas à cause de ces 20. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère. Je ne parlerai plus cette fois-ci, mais peut-être s'en trouvera-t-il 10. » Le Seigneur dit, « Je ne la détruirai pas à cause de ces 10. » L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Je voudrais lire en écho à ce texte, un texte du Nouveau Testament, dans la première épître de Timothée, au chapitre 2, 1 Timothée 2, les versets 1 à 8. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui donnait lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et dans la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Vous est-il déjà arrivé de devoir passer sans transition d'une joie magnifique à une préoccupation profonde, d'être sur votre petit nuage et de devoir revenir un peu brutalement à la dure réalité des choses? C'est ce qui se passe ici pour Abraham. Il a accueilli trois visiteurs qui se révèlent être mystérieusement le Seigneur lui-même et deux anges. Ces visiteurs lui ont annoncé la nouvelle qu'il attendait depuis des années. Sa femme Sarah aura un fils bientôt, malgré sa vieillesse, en accomplissement des promesses du Seigneur, car rien n'est impossible à Dieu. Quel bonheur, quel soulagement! La réponse de Dieu, enfin, après des années d'attente, la certitude que oui, Dieu ne nous a pas oubliés malgré ces années d'attente, le moment tant espéré est là, tout proche, la délivrance enfin. Une grande joie. Et quelques instants plus tard, pourtant, nous voyons Abraham être au diapason d'une toute autre réalité. La ville de Sodome, où son neveu Lot a choisi de résider, est menacée du jugement de Dieu, est menacée de destruction à cause du mal qu'elle a commis. Et l'on voit Abraham intercéder longuement en faveur de cette ville. On le voit se préoccuper avec cœur du sort d'hommes et de femmes menacés de destruction. Le même jour, à peu d'intervalle, son bonheur ne l'a pas coupé de ceux que menaçait le malheur. Qu'est-ce qui fait sortir Abraham de sa bulle de bonheur? Le verset 16 nous l'indique. Ces hommes se remirent en route en prenant la direction de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. C'est bien en faisant un bout de chemin avec les voyageurs qu'il a accueillis qu'Abraham est conduit plus loin également dans les intérêts de son cœur. Ce petit bout de chemin supplémentaire va se révéler d'une richesse étonnante. Abraham découvre d'abord, en parlant avec ses voyageurs qui étaient venus chez lui, il découvre le but de leur voyage. Ils se rendent à Sodome. Alors Sodome, ce n'est pas tout à fait la porte à côté par rapport à l'endroit où Abraham se trouvait. Sodome est à 50 kilomètres à peu près de là où Abraham se trouvait. Mais Sodome, c'est la ville où Lot, le neveu d'Abraham, a choisi d'habiter. Une ville de triste réputation quant à la conduite de ses habitants. Abraham marche avec ses trois voyageurs et curieusement, une intimité de plus en plus grande se noue entre Abraham et l'un de ses voyageurs, l'un de ses visiteurs qu'il raccompagne un petit bout sur leur chemin. Alors le narrateur nous a déjà dit son identité. Il nous a déjà dit qu'il s'agit de l'Éternel, le Seigneur lui-même, qui a pris une apparence humaine, lui le Dieu invisible, pour venir vers Abraham, se rendre très, très présent à lui. C'est lui, ce visiteur particulier, qui a annoncé la naissance à venir, selon la promesse. Il a aussi appelé Sarah de son nom nouveau, un nom que seul Yahvé, seul le Seigneur connaissait. Il a su également que Sarah avait ri en son cœur à l'annonce de cette nouvelle. C'est certain, Abraham a déjà pu reconnaître dans ce visiteur quelqu'un de particulier, quelqu'un qui parle la parole de Dieu, quelqu'un qui connaît de la connaissance même de Dieu. C'est ce personnage qui continue alors qu'il marche sur le chemin à parler et sur un ton de plus en plus intime. Vais-je cacher à Abraham, dit-il, vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Et ce personnage dit à Abraham, je t'ai choisi. À ce moment-là, c'est clair. Abraham sait avec certitude absolue qu'il a devant lui sous une forme visible, choisie pour le rejoindre, lui personnellement, il a devant lui le Seigneur qui lui était apparu, le Dieu unique en qui il avait mis sa foi, Yahvé, le Dieu très haut, le Dieu invisible, pour lequel il avait tout quitté, pour lequel il avait laissé son pays, sa patrie, la maison de son père. Et ils sont seuls maintenant, face à face, l'un et l'autre. Les deux autres ont continué leur route vers Sodome. C'est un moment absolument spécial. Le Dieu très haut, le Dieu invisible est là, tout proche, visible, palpable, à portée de main. Un regard exprime sa personne, une intonation dit sa parole. Il s'adresse à Abraham en tête à tête. Abraham peut lui parler, lui répondre, en reconnaissant et son altérité et sa proximité. Le ton est à la parole intime, à la confidence. Jamais Dieu n'a été aussi proche d'un homme. Jamais, depuis le jardin d'Éden, où vers la brise du soir, le Seigneur parcourait le jardin à la rencontre d'Adam et Ève, nos premiers parents, avant qu'ils ne désobéissent. Jamais non plus, jusqu'au moment sublime où en Jésus-Christ, celui qui était de toute éternité Dieu dans l'intimité du Père ne revête notre condition humaine pour l'assumer cette fois-ci, pour nous y rejoindre et pour la porter à une destinée plus haute. Ce moment est très spécial. Abraham peut parler avec le Seigneur qui est là vis-à-vis de lui, comme quelqu'un à qui on peut s'adresser tout proche. Et ce moment est tellement spécial que l'on a dans le texte biblique quelque chose de très spécial aussi. Ceux qui ont copié les manuscrits de la Bible ont été en général, et ont été toujours, hyper respectueux du texte, tout comme ils étaient hyper respectueux de Dieu. Et en fait, à un moment donné, au verset 22, ils avaient devant eux un texte qui disait « Les deux hommes, donc qui sont des anges, hein, les deux hommes descendirent et se détournèrent et se rendirent vers Sodome, mais le Seigneur se tint en la présence d'Abraham. » Le Seigneur se tint en la présence d'Abraham. Autrement dit, c'est le Seigneur lui-même qui veut rester auprès d'Abraham. En lisant ça, leur respect pour le Seigneur leur a fait penser, on ne peut pas écrire ça comme ça. On ne peut pas écrire comme ça. Et du coup, ils ont inversé la formule en écrivant ce que nous avons dans notre Bible. Abraham se tint en la présence du Seigneur. Mais ils ont mis dans la marge une petite note qui disait que, originellement, c'était « Le Seigneur se tint en la présence d'Abraham ». Vous voyez un petit peu ? Il choisit lui-même, le Seigneur, de s'arrêter. Il désire lui-même ce moment d'intimité pour parler de cœur à cœur avec Abraham, pour entrer dans ses projets, pour entrer dans sa pensée, pour l'écouter, être relié à lui. C'est juste magnifique, cette expression-là, cette volonté-là du Seigneur. Mais les copistes de la Bible hébraïque n'ont pas pu y croire. C'était trop beau pour être vraiment le Seigneur, tellement, tellement grand, tellement digne de tout. Ils ont inversé la formule. Nous savons que ce que les copistes de la Bible hébraïque n'ont pas pu croire était pourtant une réalité. Le Seigneur, le Dieu très haut qui habite les lieux élevés et la sainteté, ce Dieu-là aime à s'arrêter pour entrer dans l'intimité des siens. Il l'a manifesté ici à Abraham en s'arrêtant vraiment pour prendre ce temps avec lui. Il l'a manifesté plus tard de manière éblouissante en Jésus. L'évangile de Jean nous le rappelle, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Dieu Fils unique, celui qui est dans le sein du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. Et c'est l'éblouissement pour ceux qui l'ont connu, qui en rendent témoignage. La première épître de Jean nous dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons même touché, concernant la parole de vie, nous vous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. » C'est ici, comme pour Abraham, à la fois une certitude et un éblouissement, un saisissement et un renversement. Abraham se découvre donc ici, dans une proximité, une intimité avec le Seigneur qui s'est lui-même fait proche d'une manière absolument inimaginable. Il se découvre ainsi comme ami de Dieu, du Seigneur qui a voulu s'arrêter pour avoir ce moment avec lui. Et Jésus nous dit aussi, je ne vous appelle pas serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé mes amis. Mais que veut dire cette amitié, cette intimité? À quoi conduit-elle? À quoi ouvre-t-elle? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, avait dit le Seigneur au moment où ils étaient encore en route. Il y a là une sorte de parole d'intimité, de confidence. Le Seigneur veut faire entrer Abraham dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il pense. Abraham a vraiment le privilège d'être introduit dans la pensée même, dans les projets du Seigneur. Mais cette pensée du Seigneur l'obligera à s'ouvrir à de tout autre horizon que celui de son bonheur, du bonheur qui était le sien. Au début, tout semble dans la ligne de la bonne nouvelle, de la bénédiction d'Abraham. Ce que le Seigneur va faire, c'est ce qui est dit au verset 17-18, il va bénir Abraham, il va faire de lui une grande nation, en qui seront bénies toutes les nations de la terre. Dieu rappelle son choix, Dieu rappelle ses promesses. Il a connu, il a choisi Abraham pour cela. Mais le projet dont Dieu parle aussi à Abraham a aussi une autre dimension. Si le Seigneur est le Dieu des promesses qui veut bénir Abraham et toutes les nations de la terre en sa postérité, il a aussi des attentes. Il veut qu'Abraham et sa lignée répondent à ses attentes. « Je l'ai choisi, dit-il, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maisonnée après lui » de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi le Seigneur accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Autrement dit, Dieu bénit, Dieu choisit, et c'est ce que Abraham découvre avec l'annonce de la naissance d'Isaac, son fils, mais Dieu attend également de notre part une vie conforme à sa volonté. Il attend des siens droiture et justice. Et c'est la vocation d'Abraham de manifester cette manière d'être, de droiture, de justice, une manière de vivre qui honore le Seigneur. Et c'est notre vocation à nous aussi. Et le Seigneur souligne cela d'autant plus qu'il y a là-bas Sodome, Gomorre, dont la descendance d'Abraham est appelée à devenir en quelque sorte le contre-pied. Le Seigneur est venu aussi à cause du cri contre Sodome, qui est immense, nous dit le texte, qui est immense à cause de son péché, qui est lourd et qui a un poids considérable. Autrement dit, Dieu a des attentes de justice et d'équité pour les siens, lorsqu'il promet, lorsqu'il choisit. Mais le regard qu'il porte sur le monde entier est marqué également par sa justice, est marqué également par ses exigences morales. Il en a le droit, il est notre créateur. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui nous a fait pour que nous vivions dans son harmonie, dans le respect de ce qu'il veut, dans le respect de Dieu, dans le respect de ce qu'il veut, dans un mode de vie conforme à sa volonté de créateur. Mais malheureusement, ce respect de Dieu, l'homme, l'humanité lui a tourné le dos. Et Sodome, Gomorre en sont de terribles illustrations. Et c'est pourquoi le Seigneur va vers Sodome, armé de ses exigences. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle le sache ou non, la ville est évaluée par le Seigneur, par rapport à ses normes à lui. Il en va de même aujourd'hui. Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous aurons à rendre compte. C'est une parole de l'Épître aux Hébreux. Et Abraham l'a bien compris lorsqu'il appelle le Seigneur celui qui juge toute la terre. La situation donc est claire, elle est sérieuse. Dieu a ses exigences et le cri est énorme contre Sodome. Comment Abraham va-t-il se situer en entendant cela? Et ce récit est important car Abraham est le père des croyants et son attitude a valeur d'exemplarité pour tous ceux qui sont fils et filles d'Abraham. Et que découvrons-nous le jour même où Dieu lui annonce la bénédiction pour lui et sa descendance? Le Seigneur le conduit à se préoccuper également du sort de Sodome, la ville rebelle, la ville mauvaise. Abraham le béni n'est pas appelé à vivre son bonheur et sa bénédiction dans une bulle qui le couperait de tout du monde qui l'entoure. Abraham le béni, Abraham notre père, nous est montré au contraire dans une attitude de solidarité, de prière, d'intercession, demandant le bien de Sodome, demandant que Dieu épargne Sodome du jugement s'il se trouve un petit noyau de juste en son sein. Et ceci le jour même où s'accomplissait pour lui la promesse tant attendue. La prière d'Abraham pour Sodome dit avec force la solidarité du croyant, de tout croyant, avec le reste des hommes. Être croyant, ce n'est pas s'isoler, c'est rester tourné vers la société humaine, c'est rester concerné par le sort de celles, de ceux qui y vivent. C'est savoir se mettre en travers, s'interposer peut-être pour elles. Et la grande fonction de ce texte, où nous voyons Abraham intercéder pour Sodome, est de nous inviter à dire un non très clair à l'isolationnisme. Nous ne pouvons pas vivre notre foi dans une tour d'ivoire, à l'abri de tout ce qui se passe autour de nous. Nous ne pouvons pas vivre notre petit bonheur simplement dans la joie de ce bonheur, sans être concernés par ce qui est autour de nous. Comme Abraham, notre père, s'est laissé concerner, nous sommes appelés à nous laisser nous aussi concerner par ce qui se passe autour de nous. Mais qu'est-ce qui permet d'agir ainsi, d'avoir cette attention, ce cœur? Le sort de Sodome n'est-il pas réglé définitivement par sa méchanceté, par son péché énorme? L'affaire n'est-elle pas entendue? Il est question d'un cri contre Sodome, d'un cri qui s'est accru, qui est énorme. Et ce cri dit le désordre, dit la souffrance, dit la dissonance que crée le mal, et nous l'entendons ce cri lorsque nous voyons la terre aujourd'hui. Ce cri dit la justice bafouée par rapport aux lois de Dieu, par rapport à ce que Dieu désirerait pour l'humanité. Ce cri parle du rejet de Dieu par des hommes et des femmes qui veulent vivre sans aucune autre référence qu'eux-mêmes. Ce cri parle également des souffrances humaines qui sont infligées par ceux qui font le mal. Mais ce cri, c'est aussi certainement un cri qui s'élève de l'être même de Dieu, car tout en lui s'oppose au mal. Un cri certainement d'immense tristesse du Seigneur devant le gâchis engendré par tant de révoltes, par tant de désobéissances, par tant de mal commis. Avant le déluge, déjà, on avait une description d'une situation semblable. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, que chaque jour son cœur ne concevait que des choses mauvaises. Et l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. Comment le Seigneur réagit-il par rapport à ce cri qui monte donc de Sodome contre elle? Il y a dans notre texte une parole un peu surprenante, mais qu'il vaut la peine d'écouter. C'est les versets 20 à 21. Le Seigneur dit « Ce qu'on reproche à Sodome et Gomorre est si énorme, et leur péché est si grave, que je vais descendre. Je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. Si cela n'était pas, je le saurais. » Certains ont vu ici l'expression d'une théologie ancienne pour qui Dieu ne saurait pas bien tout ce qui se passe et aurait besoin d'aller voir. C'est un jugement assez rapide par rapport à tout ce que l'Écriture nous dit de Dieu, et qui ne s'harmonise pas même avec la conception qui est dite ici dans le texte, car Abraham s'adresse au Seigneur comme celui qui juge toute la terre, comme celui qui connaît toutes choses. Que veut donc dire, ce « je vais voir » Le Seigneur dit « je vais voir » si c'est comme on me l'a dit. C'est bien sûr une manière un peu humaine de parler, mais qui exprime une vérité. Cela décrit d'abord un Dieu qui se refuse à juger selon les apparences, à juger selon une affirmation ou selon une étiquette collée sur quelqu'un ou sur une ville. Je ne veux pas m'en tenir aux ouï-dire. Je veux m'approcher pour voir ce qui se passe vraiment. Nous jugeons si souvent en bloc, en mettant tout et tout le monde dans le même paquet. C'est si commode et si injuste parfois. Mais cette parole nous invite à garder toujours le sens du particulier et même le sens de la nuance. Et ceci y compris quand on parle du mal. Tous les comportements qui s'éloignent de la volonté de Dieu ne sont pas absolument les mêmes. Faire le mal par imitation ou par ignorance, ce n'est pas tout à fait pareil que de faire le mal consciemment ou par défi. Tout le monde également ne va pas jusqu'à l'extrême du mal. Certains choisissent de s'arrêter avant. Et il faut leur donner acte de ce choix. Même si ça signifie pas non plus que, si ça ne justifie pas non plus leur écart par rapport à ce que Dieu demande. On dit parfois qu'il ne faut pas faire de différence entre de gros et de petits péchés. Il n'y a pas de différence entre les gros et les petits péchés. Ce n'est pas tout à fait juste de dire cela, parce qu'il existe quand même des gradations dans le mal, des degrés d'implication. Les gens de Sodome étaient de grands pécheurs, nous dit le chapitre 13, verset 13, de grands pécheurs, tant leur manière d'être rejetait complètement dans tous les registres de leur vie les exigences du Seigneur. Mais tous ne vont pas aussi loin, heureusement. Tous, cependant, nous sommes pécheurs. Et être un moindre pécheur qu'un autre ne nous excusera jamais. Mais quand même, la différence peut être faite. Et Jésus rappelle aussi que ceux qui ont eu la connaissance de la volonté de leur maître et qui ne l'ont pas accomplie sont plus responsables devant lui. Et ça nous concerne, nous tous, qui savons beaucoup de choses. Donc voyez, ça vaut la peine quand même de savoir faire quelques nuances même lorsque l'on considère le mal, même lorsque l'on considère les personnes qui font le mal. Notre texte, en tout cas, nous invite à refuser les globalisations injustes. Avant de juger, allez. Comme le Seigneur dit, je veux aller voir. Comme le Seigneur qui va descendre et voir. Aller vers l'autre, comprendre où il en est, de quoi il en retourne. Et l'on retrouve ce que Jésus dira plus tard. Si ton frère a péché, va vers lui. Mais va voir. Ne va pas juger d'emblée. Et si le mal n'est pas, ou si le mal n'est plus parce que ton frère s'est repenti, réjouis-toi. Donc Dieu nous invite en disant « Je vais voir ». À ne pas avoir des jugements globaux à l'emporte-pièce, mais à garder le sens de la réalité. Mais le Dieu qui dit « je vais voir » manifeste aussi par cette parole son espérance et son désir de faire grâce. Voyez les mots qu'il emploie quand même au verset 21. « Je vais voir s'ils ont agi entièrement selon ce que j'ai entendu. Et si cela n'était pas je le saurai. » Que cherche ici le Seigneur? Il cherche s'il peut trouver quelque chose de bien. Il cherche ce qui permettrait de prendre patience, ce qui permettrait de donner une chance. Et c'est pourquoi il dit, « Si ce n'était pas comme on me l'a dit, je le saurai. » Il cherche les ouvertures plutôt que ce qui enferme définitivement. Il vient avec un regard qui est comme un peu anxieux de bienveillance. Si ça n'était pas le fait qu'il soit de si grand pécheur, je le saurais. C'est ce que veut dire précisément le fait que Dieu est lent à la colère. Il choisit d'avoir ce regard qui cherche d'abord à voir s'il n'y a pas une raison d'être patient, s'il n'y a pas une raison de faire grâce encore. Dieu est juste, mais cette justice ne va jamais sans la bienveillance. Et l'on découvre ici déjà le Dieu qui se révélera en Jésus-Christ dans toute sa lumière, lorsque Jésus dira « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par moi. » Pour que le monde soit sauvé par moi. L'orientation de notre regard est une composante déterminante. Si nous voulons voir le mal partout, nous le verrons partout. Si nous voulons le voir très fort chez les autres et moins fort chez nous, nous y arriverons également. Jésus nous a avertis qu'on peut très bien voir le petit bout de paille qui est dans l'œil de son prochain et ne pas voir la grosse poutre qui est dans le nôtre. Et si nous cherchons à voir le bien là où il se trouve, nous découvrirons aussi des choses très certainement. Nous avons lu tout à l'heure l'exhortation de l'apôtre Paul à prier pour tous les hommes, parce que Dieu veut aussi que tous soient sauvés. Ce qui veut dire une invitation à étendre vraiment nos sujets de prière à la société, à ce qui nous entoure, et pas seulement à l'Église, à nos frères et sœurs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette prière est étonnamment diversifiée. Je vous invite à faire pour tous les hommes des prières, oui, des requêtes, oui, des supplications à leur faveur, et des actions de grâce. Ça veut dire merci aussi, y compris pour tous les hommes. Les hommes qui ne sont pas du cercle chrétien, bien sûr, il y en a tellement. Tant de choses aussi qui permettent de rendre grâce tout en priant, tout en suppliant. Cela veut dire qu'un regard diversifié, un regard ouvert a été posé. Et une invitation pour nous à avoir ce regard aussi sur les autres, ce qui ne doit rien ôter à la lucidité, bien sûr. Quel regard posons-nous sur les autres, sur le monde qui nous entoure? Quel regard posons-nous, mais quel cœur avons-nous surtout? C'est la question que nous pose Abraham, le croyant, qui prie pour cette ville Sodome, dont il connaît la réputation, dont il pourrait très bien se désintéresser, tout occupé à sa vie, à lui, aux promesses de Dieu pour lui, à son bonheur pour lui, à son bonheur à lui. Abraham va choisir vraiment de prier pour Sodome. Il faut ici dissiper un malentendu. Abraham ne prie pas seulement à cause de son neveu Lot. C'est sûr qu'il a Lot en vue, son neveu qui habite à Sodome. Mais s'il avait juste voulu prier pour Lot, il aurait dit « Sauve Lot, mon neveu, amen », c'était tout. Abraham fait beaucoup plus que ça. Il prie pour la ville. Il prie pour cette ville d'injustice, de débauche, d'orgueil, mais dont il ne veut pas réduire tous les habitants non plus à ce cliché. Il parle des justes qui pourraient se trouver peut-être à Sodome. Et sa requête, c'est de dire que si Dieu est obligé d'opérer, oui, un jugement global sur les justes comme sur les méchants, car si on détruit une ville, c'est toute la ville qui est détruite, que Dieu sache donner au moins un poids à la présence des justes pour reporter son jugement plutôt qu'à la présence des méchants pour l'exécuter. Abraham prie donc pour la ville. Il a un cœur pour cette ville, pour ses habitants. La réputation de Sodome, sa réalité, ne lui enlève pas cet amour et ce cœur. Et en cela aussi, Abraham est le père des croyants. Abraham qui prie, qui intercède, est une figure de ce à quoi l'Église est appelée, à la suite du Christ qui a pleuré sur Jérusalem, et à l'image de Dieu qui ne vient pas d'abord pour juger, mais pour voir s'il ne trouverait pas une raison de faire grâce. On peut se laisser aveugler par le mal, être tellement frappé, heurté par le mal, par la transgression, par l'horreur, qu'on ne voit plus la personne qui s'est écartée, qu'on ne la voit plus autrement qu'au travers de cette transgression. Abraham sait qu'il y a du mal à Sodome, mais Abraham prie, Abraham aime. Et on a là un dialogue magnifique entre Dieu et Abraham. Un dialogue qui, du côté d'Abraham, mêle hardiesse et respect. De l'hardiesse, car Abraham va aussi loin que possible dans sa demande de grâce pour la ville. Et il pousse le Seigneur à manifester sa grâce, son amour, aussi loin qu'il le peut. Pour 50 juste, épargnerais-tu la ville? Pour 50, 45, 40. Les premiers pas sont timides. Vous avez vu qu'Abraham commence de 5 en 5. Et puis Dieu acquiesce. Et du coup, il va un peu plus loin. Et pour 30, et pour 20. Il fait des bons de 10 cette fois-ci. Il y en a de moins en moins. Et pour 10. Fortifié par les dispositions qu'il découvre dans le Seigneur qui est là, dans un vis-à-vis tout assez, assez unique, mais si parlant, il mêle la hardiesse, parce qu'il sait qui est Dieu, parce qu'il sait à qui il s'adresse et il s'appuie sur ce qui c'est là. Hardiesse, oui, mais respect, à chaque pas, à chaque étape, Abraham manifeste ce respect. Il questionne plutôt que d'imposer. Il rappelle son indignité. J'ai osé parler, moi qui ne suis que poussière et cendre. Il se souvient que Dieu est le Seigneur. J'ai osé parler au Seigneur. Il s'arrête aussi lorsqu'il sent qu'il est arrivé à la limite. Hardiesse, respect. Et le Seigneur, que fait-il ici, dans ce dialogue ? Est-ce qu'il est en train de céder du terrain ? Est-ce qu'il est en train de faire des concessions qu'il avait voulu faire au départ, parce qu'Abraham le pousse ? Pas du tout. Le Seigneur est heureux de trouver en Abraham quelqu'un qui partage son amour pour les hommes, quelqu'un qui partage son souci à la fois de la grâce et de la justice. Le Seigneur est heureux de cette connivence. Le Seigneur est heureux de ce partenariat lorsque nous prenons à cœur ce qu'il a lui-même à cœur. Et Abraham ici n'est pas en train de forcer le Seigneur, mais il est vraiment dans une harmonie avec le Seigneur, que le Seigneur apprécie. Il y a d'autres textes dans Ésaïe 59 où dit, le Seigneur dit, moi j'ai cherché quelqu'un qui intercède et il n'y a eu personne. Vous voyez qu'on ne force pas le bras de Dieu quand on prie, quand on demande. Intercéder, c'est vraiment prendre à cœur ce que Dieu a à cœur. C'est une connivence, une belle connivence à chercher pour nous-mêmes. Et c'est quelque chose que le Seigneur aime profondément. Abraham prie pour Sodome, pour Gomorre. Le Seigneur entend. Le Seigneur aime entendre Abraham avoir cette attitude-là, cette attitude de cœur. Car Dieu aime le monde. Il l'aime tellement qu'il a donné son Fils, son unique, pour pouvoir non pas juger le monde, mais le sauver, donner une chance d'être sauvé. C'est de cet amour-là que Dieu a aimé Sodome et ses habitants. C'est de cet amour-là que Dieu nous aime chacun. Et c'est aussi dans cet amour-là que Dieu nous appelle à la repentance si nous avons fait le mal, qu'il nous appelle à revenir à lui, qu'il nous appelle au changement de conduite et d'attitude, là où il faut changer de conduite et d'attitude. Mais cet appel est toujours un appel d'amour. Dieu a un cœur pour le monde, Dieu a un cœur pour chacun. Et nous, quel est notre cœur pour le monde ? Quel est notre cœur pour ceux qui nous entourent, qu'ils soient proches ou qu'ils soient lointains ? Quel est notre cœur lorsqu'il y a de toute évidence de quoi juger, de quoi condamner ? Quel est notre cœur pour continuer à prier, à chercher toujours et encore le bien à découvrir ? Le bien à demander, le bien à favoriser, le bien à accomplir, le salut à demander, le salut pour lequel intercéder. Abraham, l'ami de Dieu, a été de ce fait l'ami des hommes. Nous avons connu le visage de Dieu en Jésus-Christ. Quel visage tournerons-nous vers nos prochains ? Amen.